Bonjour et bienvenue sur la radio H2B. J'espère que vous allez bien. Je suis Isaac, présentateur de l'émission. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte du Collège Léo de Blémont. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème des réseaux sociaux. À quoi servent-ils? Sont-ils efficaces pour les utilisateurs? Peuvent-ils être des risques pour les internautes? Quels dangers présentent-ils? Évidemment, nous allons vous éclairer un peu plus sur ce thème grâce à Yanis qui va interviewer Benoît sur la charte.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Yanis et aujourd'hui je vais interviewer Benoît. Benoît, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
On va parler sur la charte sur les réseaux sociaux.
Et qui va travailler sur cette charte ?
Nous allons travailler avec la classe des 4ème 1, 4ème 2 bilingues des eaux de Blémont.
Est-ce que vous l'avez déjà faite, cette charte ?
Non, mais on va sûrement la faire cette semaine ou la semaine prochaine.
Comment allez-vous travailler sur cette charte ?
Je pense qu'on va travailler en groupe et on va s'inspirer des images et des textes.
Pourquoi allez-vous faire cette charte ?
Pour montrer les points négatifs et positifs des réseaux sociaux.
C'est quoi les risques ?
Les risques, c'est les risques d'harcèlement, de piratage, de virus et de fake news.
Mais Internet, est-ce seulement des risques négatifs ?
Non, on peut jouer, on peut communiquer, débattre, échanger, donner son avis.
Est-ce que vous savez c'est quoi la cybercriminalité ?
C'est quand, par exemple, il y a du harcèlement, du piratage de comptes et des virus.
Alors merci Yanis, merci Benoît pour nous avoir présenté cette charte. Alors maintenant, on va passer à Sena qui va nous présenter sa chronique sur l'affiche.
Bonjour, je vais vous présenter la chronique sur les affiches. On les a réalisées avant les vacances avec le professeur d'art plastique, Madame Tonat, pendant un EPI. C'est les professeurs qui ont choisi le thème sur les réseaux sociaux. On a travaillé en groupe sur ce sujet. Chaque groupe a choisi un sous-thème. Par exemple, mon groupe a voulu parler des personnes qui sont côte à côte et qui ne se parlent pas parce qu'elles sont sur leur ordinateur. Un autre groupe a choisi de parler des différences entre une personne sur les réseaux sociaux et la même personne en réalité. On a réalisé les affiches à partir d'une image qu'on a trouvée sur Internet et décalquée. On a rajouté la couleur. On a aussi dessiné les bulles de réseaux sociaux. Le but de cette affiche est de montrer à quel point les personnes sont obsédées par les réseaux sociaux et qu'ils ne voient pas ce qu'il y a autour d'eux.
Merci Sena, c'était magnifique de nous avoir présenté ta chronique sur l'affiche. Passons à présent à la chronique de Kylian en anglais qui nous parle de la façon d'utiliser Internet. Nous avons la chance d'avoir Clarissa et Maria qui interprétera cette chronique en anglais.
Hello, I'm talking about the cyber dangers. On the internet, there are many dangers. We call them cyber dangers.
Sur internet, il y a beaucoup de dangers. On les appelle les cyber dangers.
First, people spend too much time on the internet. 5 or 6 hours a day. It's crazy, it's unhealthy. People can have sleeping problems. Problems if they are hypnotized with their screens. Le premier, les gens passent beaucoup de temps sur internet. 5 ou 6 heures par jour. C'est fou, c'est pas bon pour la santé. Les gens peuvent avoir des problèmes de sommeil, des problèmes aux yeux. Ils sont hypnotisés par leur écran.
Second, people take too many pictures with filters. It's not natural, it's superficial. People are addicted to their image. Le second, les gens prennent trop de photos avec des filtres. Ce n'est pas naturel, c'est superficiel. Les gens sont accros à leur image.
The next problem is that social network can make people distant. People chat together and they are next to each other. It's very strange.
Le problème suivant est les réseaux sociaux qui peuvent mettre à distance. Des personnes peuvent discuter ensemble. Pourtant, ils sont l'un à côté de l'autre. C'est vraiment étrange.
Also, your personal data are on the internet. Everyone can use your information. Your pictures, your credit card number. You must be very careful with what you post. Ensuite, vos données personnelles sont sur internet. Tout le monde peut se servir de vos informations, vos photos, vos numéros de carte de crédit. Vous devez faire très attention à vos publications.
Be careful of online predators, but person can talk to you. Il faut faire attention aux prédateurs en ligne. Des mauvaises personnes peuvent parler avec vous.
In conclusion, the internet can be dangerous. We should log out and start the digital detox.
En conclusion, l'internet peut être dangereux. Nous devrions se déconnecter et commencer une détox numérique. Thank you very much for listening.
Eh bien, merci Kylian pour nous avoir présenté ta chronique en anglais, ainsi que Clarissa et Marien pour nous avoir interprété cette chronique en anglais. Place à présent à notre expert Vincent Bernard, médiateur à l'association de la Passerelle.
Bonjour, on va peut-être voir dans le public s'il y a des questions.
Selon vous, l'évolution des technologies change-t-elle le rôle du journaliste ?
Oui, très certainement. Il y a une petite expression dans le milieu qui dit que maintenant le journaliste est un couteau suisse, à savoir qu'il doit savoir aussi bien manipuler la presse écrite que la vidéo, que le montage, que différents logiciels qui visent à donner de l'interactivité au contenu qu'il produit.
Moi, je pense que le journaliste garde sa place. Et sur Internet, effectivement, on trouve pas mal d'articles, mais qui ne sont peut-être pas du ressort du journalisme parce qu'ils ne respectent pas forcément les normes du média.
Peut-on dire que de nos jours, grâce à nos smartphones et aux réseaux sociaux, nous sommes toujours journalistes ?
Avec les smartphones, on a tous dans la poche un outil qui nous permet d'être journaliste. Mais c'est pas l'outil qui fait le journaliste. Le journaliste se sert de l'outil. Pour devenir journaliste, c'est quand même une profession où on passe des diplômes. Le métier de journaliste, il y a quelques petites choses à savoir.
En béaba du journaliste, c'est l'objectivité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être partial. Il faut vérifier ses sources, il faut vérifier qu'il y ait plusieurs sources pour vérifier que l'info est vraie. Ce qui, je pense, sont les deux principes fondateurs du journalisme. Par rapport au smartphone, vous avez peut-être une possibilité de prendre des photos ou de communiquer directement, mais c'est pas pour autant que ça fait du journalisme parce qu'il n'y a pas justement cette notion d'objectivité. Vous avez que votre information directement, vous savez pas si quelles sont les autres sources, quels sont les autres aspects de l'information.
Effectivement, c'est pas parce qu'on a son smartphone qu'on peut passer des informations quand on le souhaite et comme on le veut, qu'on pratique le journalisme. Il faut reconnaître aussi que ce métier obéit à certains critères. Celui qui pratique ce métier en rendant public des informations respecte les angles, respecte la nature de l'information en se basant effectivement sur la source d'information. Mais sur des smartphones, on peut s'amuser à relayer l'information, mais ça ne fait pas de l'utilisateur un journaliste.
C'est un bon outil pour apprendre le journaliste et aussi une façon de jouer à être journaliste pour le devenir plus tard.
Oui, on peut apprendre des règles.
Qu'est-ce que Internet et les smartphones ont changé dans notre rapport à l'information ?
Le plus gros changement, c'est l'instantanéité. Il peut se passer quelque chose à l'autre bout du monde. Dans la minute et dans l'instant, on peut être informé sur ce qui se passe ailleurs. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas savoir si ce qui se passe est vraiment vrai, si c'est l'objet d'une manipulation, si cette information est objective.
Pour quelles raisons le journalisme a-t-il changé au début du XXIe siècle ?
C'est Internet et sa diffusion qui ont fondamentalement modifié le journalisme et surtout notre rapport au journalisme.
Quels sont les différentes sources d'informations que vous connaissez?
Donc on a généralement ce qu'on va appeler la presse, qui va aller du Monde, en passant par Le Figaro, en passant par Europe 1, en passant par BFM TV, en passant par le journal de 20h. On a aussi maintenant ce qu'on appelle des pure players, qui sont des sites d'information en ligne, et ceux-là sont de deux types. Les sites façon Mediapart, qui est le plus connu, qui fonctionne par abonnement avec des contenus payants, et d'autres sites, vous pouvez citer Slate.fr, qui sont sur des formules gratuites. Une information gratuite, c'est une information qui est financée par la publicité et que donc plus une page va être vue, plus elle va rapporter d'argent aux journalistes. Et donc il y a aussi des modifications des techniques d'écriture et de production d'informations qui font que l'objectif devient malheureusement d'attirer le lecteur.
Par exemple sur YouTube, à partir d'un certain nombre de vues, ils sont payés un certain nombre d'euros. Donc plus il y a de vues, plus vous avez d'argent. Donc forcément les gens vont chercher à faire des vidéos les plus choquantes et les plus marquantes possibles pour avoir le plus d'argent. Et pareil pour le nombre de vues. Donc c'est pour ça que souvent sur les on va avoir des titres assez scandaleux alors que l'information n'est pas vraiment, mais c'est juste pour attirer, parce qu'à partir du moment où la personne a cliqué, qu'elle lise l'article ou pas, c'est pas important, du moment qu'il y a un clic, il y a de l'argent qui arrive.
Pensez-vous qu'il est plus facile de s'informer aujourd'hui de par avant ?
Si de nos jours il est beaucoup plus facile d'être informé, il est aussi beaucoup plus facile d'être désinformé. Plus d'informations transitons dans le monde, et plus de personnes consommant cette information, lisant cette information, certains se disent que face à cette demande d'information, on va pouvoir glisser de fausses informations afin de manipuler l'opinion, aboutir à certains objectifs, mais aussi pour beaucoup s'amuser. C'est l'exemple du Gorafi, mais qui eux avancent clairement qu'ils ne sont pas un site sérieux, alors que d'autres vont jouer sur l'ambiguïté.
Les réseaux sociaux sont-ils dangereux ?
En soi-même, un réseau social n'est qu'une manière de communiquer, ça ne fait que échanger et partager de l'information, et c'est résolument les utilisateurs qui font le réseau social, et pas le réseau social qui fait les utilisateurs.
quels sont les rôles des journalistes professionnels?
Il a le devoir d'informer, d'éduquer, de par son métier, de rendre public les informations importantes et nécessaires.
Question qui se pose peut-être aux élèves, c'est vous, comment vous vous informez?
On peut plus s'informer à la télé et on peut un peu s'informer à la radio.
Est-ce qu'on pourrait donner nos opinions sur les dangers d'Internet? Moi, je pense que Internet est vraiment dangereux car des personnes font de la propagande à nous radicaliser d'une façon sournoise dans un moment qu'on se sent mal dans notre vie.
Les réseaux sociaux sont dangereux car une personne sur Internet peut créer un faux profil sur un réseau social et mettre des informations inappropriées.
Les réseaux sociaux sont dangereux parce qu'on peut avoir des critiques vulgaires, on peut se faire menacer et soit harceler.
J'ai entendu parler de propagande et de radicalisation. Il faut savoir que oui, effectivement, ça existe, mais vous êtes à l'école, c'est pour ça que d'ailleurs l'école existe, qu'on travaille quelque chose qui s'appelle l'esprit critique. Et ça, c'est votre travail de citoyen, d'apprendre à reconnaître ces choses-là, à savoir les éviter et agir contre. Et de même, sur ce qui va concerner effectivement la cybercriminalité, les prédateurs qui traînent ou le harcèlement, par rapport, quelque part, à la vraie vie, un réseau social a une fonctionnalité qui est super, ça s'appelle bloquer ou supprimer la personne. Il ne faut jamais hésiter à le faire.
Est-ce que les réseaux sociaux peuvent influencer une personne?
En ce moment, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ce qu'on appelle les bulles de filtre et aussi quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation. En fait, pour résumer, c'est que effectivement, on a plus facilement tendance à croire une information qu'on voit passer souvent devant nos yeux. Ça reste la même information, mais le fait qu'elle tourne en boucle finit par qu'on croit qu'elle est vraie. D'un autre côté, il y a aussi des études qui montrent qu'on a plutôt tendance à croire les personnes qu'on connaît. Donc là, il y a un réflexe à avoir par rapport à une information qui circule sur Internet, qui est d'aller vérifier la source. À force, on voit les sites qui sont sérieux et les sites qui ne sont pas. Et en cas de doute, il y a un outil qui s'appelle le Décodex. On rentre le lien de l'information qui est passée devant nous. Et là, on arrive plus ou moins à savoir si c'est une information vraie ou une information fausse.
Mais justement, en fait, pour les gens de notre âge, est-ce qu'on doit laisser nos parents, par exemple, surveiller tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'ils doivent nous laisser faire?
Ce que les professionnels et les spécialistes conseillent varie déjà avec l'âge. Mais si je devais donner une tendance générale sur la position des parents vis-à-vis d'Internet, il est très important que les parents, au lieu d'avoir de la suspicion et du contrôle, et de la discussion. Et ça peut commencer par des petites choses toutes bêtes, que je remarque, que c'est par exemple un adolescent qui fait du foot. Quand il rentre de son match, les parents lui demandent « Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as gagné ?» Par contre, on remarque qu'un adolescent qui joue aux jeux vidéo, son entourage va très peu lui demander « Comment ça se passe? À quoi tu joues? Quel plaisir tu trouves? Quel défi tu as réalisé aujourd'hui ?» etc. etc. Et il y a tout un travail à faire au niveau culturel pour faire rentrer des pratiques numériques vraiment dans les familles et dans les usages, avec un usage responsable des deux côtés, du côté des adolescents, du côté des parents.
Quel réseau social les hommes politiques utilisent-ils le plus pour fournir des informations?
C'est un peu le constat de ces élections présidentielles. C'est Twitter qui remporte le match, on va dire, avec ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients de Twitter étant ces fameux 140 signes qui laissent la place à ce qu'on appelle de la phrase choc, qui ne sont pas argumentés.
Bon ben merci. Tout d'abord, on va remercier Vincent, Sydney et Laura pour nous avoir éclairé un peu plus sur ce thème, ainsi que remercier le public d'avoir posé ces questions. Nous sommes au terme de notre émission. Ont participé à notre émission Yanis, Benoît, Kylian, Senna, Clarissa et enfin Kylian. Nous vous remercions pour votre écoute et à bientôt.